Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Et nous sommes encore ensemble ce soir pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard. À la fin du repas, la conversation devint générale. Don Calogero racontait dans une langue exécrable, mais avec une intuition pleine de sagacité, les dessous de la conquête garibaldienne dans la province. Le notaire parlait à la princesse de la petite villa qu'il se faisait construire hors de la ville. Angélique, grisée par les lumières, la nourriture, le chablis, ainsi que par la bienveillance évidente qu'elle rencontrait auprès de tous les mâles de la table, avait demandé à Tancrède de lui raconter quelques épisodes de ses glorieux faits d'armes. Elle avait appuyé un coude sur la table et posé son menton dans sa main. Le sang affluait à ses joues. Elle était fort délicieuse et fort dangereuse à regarder. L'arabesque dessinée par son avant-bras, son coude, ses doigts, son gant blanc qui pendait, parut exquise à Tancrède, répugnante à Concetta. Le jeune homme, tout en admirant, racontait la guerre à sa façon. Tout devenait léger et dépourvu d'importance. La marche nocturne sur Gibilrossa, la scène entre Bixio et la Massa, l'assaut de la porte de Termini. Je me suis follement amusé, mademoiselle. Croyez-moi, nos plus belles crises de fou rire, nous les avons eues le soir du 28 mai. Le général avait besoin d'un poste d'observation en haut du monastère de l'Origlione. On frappe, on cogne, on jure, personne n'ouvre. C'était un couvent de religieuses cloîtrées. Alors, Tassoni, Aldrighetti et moi-même et quelques autres, nous essayons d'enfoncer la porte à coups de crosse. Rien à faire. Nous courons tout près, dans une maison bombardée, prendre une poutre. Finalement, avec un boucan du diable, la porte dégringole. Nous entrons. Tout est désert. Mais au bout du couloir, on entend des piaillements désespérés. Un groupe de religieuses s'était réfugié dans la chapelle. Elles étaient entassées près de l'autel. Qui sait ce qu'elles redoutaient de cette dizaine de garçons exaspérés? C'était comique de les voir, laides et vieilles comme elles étaient, avec leurs robes noires, leurs yeux écarquillés, toutes prêtes, toutes disposées au martyr. Elles glapissaient comme des chiennes. Tassoni, un fameux type, crie « Rien à faire, mes sœurs, nous n'avons pas le temps, nous reviendrons quand vous pourrez nous procurer les novices !» Et tous les camarades de rire à s'enrouler par terre. Nous les laissâmes sur leur appétit pour aller faire le coup de feu contre les royalistes du haut des balcons. 10 minutes plus tard, j'étais blessé. Angélique, toujours accoudée, riait en montrant ses dents de jeune louve. La plaisanterie lui semblait délicieuse. Cette allusion à un stupre possible la troublait. Sa belle gorge était toute palpitante. Quel garçon vous deviez être! Comme j'aurais voulu me trouver à vos côtés! Tancrède était transformé. La fougue du récit, la vivacité de ses souvenirs, excitée encore par l'aura de sensualité qui entourait la jeune fille, tout cela avait métamorphosé en un instant le jeune homme bien élevé qu'il était au fond, en un soldat brutal. Ah, si vous aviez été là, mademoiselle, nous n'aurions pas eu besoin d'attendre les novices. Angélique avait entendu chez elle beaucoup de mots grossiers, mais c'était la première fois, non la dernière. qu'elle se trouvait l'objet d'une plaisanterie lascive. La nouveauté lui plut. Son rire monta d'un ton et se fit strident. Tout le monde se leva à ce moment-là. Tancrède se baissa pour ramasser l'éventail de plumes qu'Angélique avait laissé tomber. En se relevant, il vit Concetta, le visage couleur de braise, deux petites larmes au bord des cils. Tancrède, ces horreurs, on ne les dit qu'en confession, on ne les raconte pas aux jeunes filles, à table, tout au moins devant moi. Et elle lui tourna le dos. Avant d'aller se coucher, Don Fabrice s'arrêta un moment sur le petit balcon de son cabinet de toilette. Au-dessous de lui, le jardin dormait, enfoncé dans l'ombre. Les arbres, dans l'air inerte, semblaient de plomb fondu. Du clocher voisin tombait le sifflement des hiboux comme dans les contes de fées. Le ciel était vide de nuages. Ceux qu'on avait salués au coucher du soleil étaient partis, Dieu sait où, vers des pays moins coupables que la colère divine condamnerait moins sévèrement. Les étoiles semblaient troubles. Leurs rayons avaient à peine traversé la couche de chaleur suffocante. L'âme du prince s'élança vers elle. Les intouchables, les inabordables, celles qui donnent la joie sans rien exiger en échange. Une fois de plus, il rêva du moment où il pourrait enfin se trouver dans ces espaces glacés, pur intellect armé d'un carnet de calculs. Calculs bien difficiles, mais qui tomberaient toujours juste. Ce sont les seuls qui soient purs. Il n'est pas de personne plus distinguée, pensa-t-il, en ce style mondain qui lui était habituel. Qui aurait l'idée de se préoccuper de la dot des Pléiades, de la carrière politique de Sirius, des secrets d'alcôve de Vega? La journée avait été mauvaise, il le sentait mieux maintenant. Non seulement à cette pression dans son estomac, mais aussi à ce que lui disaient les étoiles. Au lieu de les voir former leurs signes habituels, il découvrait, chaque fois qu'il levait les yeux, un unique diagramme. Deux étoiles en haut, les yeux, une en dessous, la pointe du menton. C'était le schéma ironique, le visage triangulaire que son âme projetait dans les constellations lorsqu'il était troublé. Le frac de Don Calogero, les amours de Concetta, l'emballement évident de Tancrède, sa propre pusillanimité, et jusqu'à la beauté menaçante d'Angélique. Autant de complications, autant de petites pierres roulantes qui annoncent l'éboulement. Et ce Tancrède, il avait raison, d'accord, et on l'aiderait. Mais on ne pouvait nier qu'il fût un tantinet ignoble. Au reste, Salina ne valait pas mieux que Tancrède. Ah, ça suffit, allons dormir. Bendico, dans l'ombre, frottait sa grosse tête contre le genou de son maître. Tu vois, Bendico, tu es un peu comme les étoiles, toi. Une heureuse énigme, incapable d'engendrer l'angoisse. Il souleva la tête du chien presque invisible dans la nuit. Mais avec tes yeux au niveau du nez et ton absence de menton, ta caboche ne peut évoquer des spectres mauvais dans le ciel. Des habitudes séculaires exigeaient que le lendemain de leur arrivée, les Salina allassent au monastère du Saint-Esprit prier sur la tombe de la bienheureuse Corbera, aïeule du prince, qui avait fondé le couvent, l'avait doté, y avait saintement vécu et y était morte saintement. Le monastère du Saint-Esprit était soumis à une règle de clôture extrêmement sévère. L'entrée était rigoureusement interdite aux hommes. Le prince était toujours heureux d'y pénétrer. En tant que descendant direct de la fondatrice, il échappait à la règle. Il était puérilement jaloux et fier de ce privilège qu'il ne partageait qu'avec le roi de Naples. La jouissance de commettre une infraction conforme au droit canon était la cause principale, mais non unique, de sa prédilection pour le couvent du Saint-Esprit. Tout lui plaisait en ces lieux, à commencer par l'humble parloir aux murs grossiers, avec sa voûte en berceau frappée du guépard, avec sa double grille pour la conversation, avec son petit tourniquet de bois pour faire entrer et sortir les messages, avec sa porte bien équarrie que, seuls hommes au monde, le roi et lui avaient le droit de franchir. Il aimait l'allure des religieuses avec leurs larges guimpes de lin blanc aux plis minuscules, tranchant sur la rude robe noire. Il aimait entendre la supérieure raconter pour la 20e fois les naïfs miracles de la bienheureuse et se sentait tout édifié quand on lui montrait le coin de jardin mélancolique où la sainte religieuse avait tenu en suspens dans les airs une grosse pierre que le démon lui avait lancée un jour, rendue nerveux par son austérité. Il s'étonnait chaque fois en voyant, encadré au mur d'une cellule, les deux lettres fameuses et indéchiffrables. Celle de la bienheureuse Corbera, qu'elle avait écrite au diable pour le convertir, et la réponse, qui exprimait, paraît-il, le regret de ne pouvoir obéir. Il appréciait les nougats confectionnés par les nonnes, d'après des recettes centenaires. Il se réjouissait à l'idée d'écouter l'office dans le cœur, et il était même heureux de verser à la communauté une part appréciable de ses propres rentes, comme le voulait l'acte de fondation. Donc ce matin-là, il n'y avait que des gens heureux dans les deux voitures qui se dirigeaient vers le monastère situé à la sortie du pays. Dans la première avaient pris place le prince, la princesse et leur fille, Caroline et Concetta. Dans la deuxième, une autre fille, Catherine, Tancrède et le père Pirone. Ceux-ci, bien entendu, resteraient extra-muros. Et pendant la visite, attendraient dans le parloir en se réconfortant avec les nougats qu'on leur ferait passer par le tourniquet. Concetta semblait un peu distraite, mais sereine. Et le prince voulut espérer que les lubies de la veille étaient oubliées. L'entrée dans un couvent de religieuses cloîtrées n'est pas rapide, même pour qui possède les droits les plus sacrés. Les religieuses tiennent à montrer une certaine répugnance, toute formelle mais prolongée, qui, du reste, donne encore plus de saveur à l'admission. De fait, bien que la visite fût annoncée, on dut attendre un bon moment dans le parloir. Ce fut à la fin de cette attente que Tancrède dit au prince, de façon assez inattendue, « Oncle, ne pourrais-tu me faire entrer aussi? Après tout, je suis à moitié Salina. Je n'ai jamais pu visiter. »
C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mai maritai. Figlia mia, tu dai dare, mamma mia, pensacci tu. Se ti rugna lo scapparo, i tu vai, i tu veni, lo scappone a mani teni. Se ci piglia fantasia, la scappulia, la figlia mia. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, olì, olì, olà. Mamma, lo voglio subito, che non ne posso più. Mezzo mare, mamma mia, mai maritari. Figlio mio, a cui dai dare, mamma mia, pensacci tu. Zitti rugna macellaia, idda va, idda veni, lucuteddu a manuteni. Si ci piglia fantasia, o cutidia, lu figlio mio. Oh mamma, gli voglio umanità. Oh mamma, gli voglio umanità. Oh mamma, olì, olì, olà. Mamma la voglio subito, che non ne posso più. C'è la luna a mezzo mare, mamma mia, ma è maritani. Figlia mia, cuda e dare, mamma mia, pensaci tu. Si perugno muraturi, tu vai, tu veni, la cazzola a manu teni. Si ci piglia fantasia, cazzolia la figlia mia. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Posso più. C'è la luna a mezzo mare, mamma mia, ma è maritani. Figlio mio, a cuda e dare, mamma mia, pensacci tu. Si perugna pizzaiola, idda va, idda veni, e la pizza a manu teni. Si ci piglia fantasia, o pizzulia, lu figlio mio. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, olì, olì, olà. Mamma la voglio subito, che non ne posso più. Mamma la voglio subito, che non ne posso più. Mamma, lo voglio subito, che non ne posso più.
Et nous revoici ensemble après cet instant musical pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Chapitre 3e, octobre 1860. La pluie était venue. La pluie était repartie. Le soleil était remonté sur son trône, tel un souverain absolu que les barricades de ses sujets ont éloigné pendant une semaine et qui revient régner, courroucé, mais tenu en bride par des chartes constitutionnelles. La chaleur réconfortait sans brûler. La lumière était autoritaire, mais laissait vivre les couleurs. Le trèfle et la menthe timides pointaient dans les campagnes. Un espoir méfiant pointait sur les visages. Don Fabrice, accompagné de Teresina et d'Arguto, chien, et de Don Ciccio Tumeo, fidèle suivant, passait de longues heures à la chasse de l'aube à midi. La peine était sans rapport avec les résultats. Il est difficile, même aux meilleurs tireurs, d'atteindre des cibles à peu près inexistantes. C'était déjà beaucoup si le prince, en rentrant, pouvait faire porter à la cuisine un couple de perdrix. De son côté, Don Ciccio s'estimait heureux s'il pouvait le soir jeter sur la table un lapin des champs qui le promouvait ipso facto au grade de lièvre, comme on fait chez nous. D'ailleurs, un butin abondant n'aurait donné au prince qu'un plaisir secondaire. La joie de la chasse était ailleurs, fragmentée en 100 menus épisodes. La joie commençait à éclore dans la chambre encore sombre quand il se rasait à la lueur d'une chandelle qui projetait emphatiquement ses gestes sur le plafond parmi les architectures peintes en trompe-l'œil. Elle se faisait plus aiguë pendant la traversée des salons endormis où il fallait éviter dans un halo vacillant les guéridons encombrés de cartes à jouer jetées en désordre parmi les jetons et les verres vides. Au beau milieu, le valet de pique, surgissant à l'improviste, semblait virilement souhaiter bonne chance au chasseur. C'était un autre plaisir de parcourir le jardin, immobile sous la lumière grise, tandis que les oiseaux matinaux s'ébrouaient pour faire tomber de leurs plumes la rosée de la nuit. Quelle joie enfin de se glisser par la petite porte encombrée de lierre, quelle joie de fuir, en somme. Sur la route encore toute innocente dans les premiers reflets de l'aube, Il retrouvait Don Ciccio souriant sous sa moustache jaunie et pestant affectueusement contre Teresina et Arguto. Les muscles des chiens frémissaient dans l'attente sous le poil velouté. Vénus brillait, grains de raisin gonflés, transparente et humide. Mais déjà, on croyait entendre le grondement du char solaire montant de l'abîme sous l'horizon. On rencontrait bientôt les premiers troupeaux qui avançaient lourds comme des marées, guidés à jets de pierre par des bergers chaussés de peau. Les toisons semblaient moelleuses et roses sous les premiers rayons. Il fallait apaiser d'obscures querelles de préséance entre chiens de berger et braques pointilleux. Après cet intermède assourdissant, on prenait le chemin des hauteurs et l'on se trouvait dans l'immémorial silence de la Sicile pastorale. On était brusquement loin de tout, dans l'espace et le plus encore dans le temps. Donna Fugata, avec son palais et ses nouveaux riches, n'était guère qu'à quelques milles, mais son souvenir semblait décoloré comme ces paysages que l'on entrevoit parfois au débouché lointain d'un tunnel. Ses misères et son luxe paraissaient plus insignifiantes que s'ils eussent appartenu au passé. Dans la fixité immuable de ces lieux écartés, Donna Fugata et les habitants semblaient plutôt tenir au futur. On aurait dit qu'ils étaient faits non de pierre et de chair, mais de l'étoffe d'un avenir mythique, qu'ils émergeaient d'une utopie caressée par un Platon rustique. Il aurait suffi d'un rien, de l'accident le plus minime, pour que tout cela revêtît des formes bien différentes, ou même cessât d'exister. Ainsi dépourvu de cette énergie que même le passé conserve dans le souvenir, Donna Fugata ne pouvait être une cause de soucis. Des soucis, Don Fabrice en avait eu en quantité durant ces deux derniers mois. Ils débouchaient de toutes parts comme des fourmis se lançant à l'abordage d'un lézard mort. Quelques-uns avaient poussé dans les crevasses de la situation politique. Le prince devait les autres aux passions de son entourage, d'autres encore, et des plus mordants, avait germé en lui-même, nourri de ses réactions irrationnelles devant la politique et les caprices de son prochain. Il appelait caprice quand il était irrité, ce qu'il appelait passion quand il était calme. Il passait chaque jour en revue ses contrariétés, il les faisait manœuvrer, leur commandait de se mettre en colonne, de se déployer en file sur la place d'armes de sa conscience, espérant reconnaître dans leurs évolutions quelques finalités qui leur assureraient. Mais il n'y parvenait pas. Les années précédentes, les difficultés étaient moindres. Et de toute façon, le séjour à Donna Fugata constituait une période de repos. Les soucis laissaient tomber leurs fusils, se dispersaient dans les anfractuosités des vallées pour s'y nourrir modestement de pain et de fromage. Ils se tenaient si tranquilles qu'on oubliait l'ardeur belliqueuse de leur uniforme et qu'on pouvait les prendre pour d'inoffensifs bergers. Mais cette année, ils étaient restés rassemblés, troupes mutinées qui vocifèrent en brandissant leurs armes. Lui éprouvait le désarroi d'un colonel qui a crié « Rompez les rangs !» et voit son régiment plus serré, plus menaçant que jamais. Orphéon, pétard, cloche, petite bohémienne et tédéum, à l'arrivée bien sûr, mais après. La révolution bourgeoise qui montait les degrés dans le frac de Don Calogero. La beauté d'Angélique, qui rejetait dans l'ombre la grâce distinguée de Conchetta. La hâte de Tancrède, qui bousculait l'évolution des temps et qui trouvait le moyen de parer des fleurs de son exaltation sensuelle ses motifs les plus réalistes. Les scrupules et les équivoques du plébiscite, les mille astuces auxquelles il devait se plier, lui, le guépard, lui qui, pendant tant d'années, avait balayé les difficultés d'un revers de patte. Tancrède, parti depuis plus d'un mois, se trouvait maintenant à Caserte, campé dans les appartements de son ancien roi. De là, il envoyait de temps en temps à Don Fabrice des lettres que celui-ci lisait avec des grognements et des sourires alternés et qu'ensuite il cachait dans le tiroir le plus secret de son bureau. Tancrède n'avait jamais écrit à Concetta. Mais il ne manquait pas de lui envoyer ses saluts avec son affectueuse malice habituelle. Une fois même, il écrivit « Je baise les pattes de toutes les petites guépardes et surtout celles de Concetta ». Phrase qui fut censurée par la prudence paternelle au cours de la lecture faite à la famille assemblée. Angélique venait rendre visite au Salina presque chaque jour, plus séduisante que jamais, accompagnée de son père ou d'une femme de chambre. Officiellement, ses visites s'adressaient à ses jeunes amies, les filles de la maison, mais on sentait qu'elles atteignaient leur point climatérique quand elles demandaient avec indifférence « A-t-on des nouvelles du prince ?» Dans la bouche d'Angélique, prince, hélas, ne le désignait pas, lui, Don Fabrice, mais le petit capitaine garibaldien. Cela provoquait en Salina un sentiment plutôt cocasse, tissé du coton de sa jalousie sensuelle et de la soie de sa satisfaction devant le succès du cher Tancrède. Impression désagréable, tout compte fait. C'était toujours lui qui répondait à la question. Il rapportait ce qu'il savait, sous une forme très étudiée. Il avait soin de présenter une petite plante de nouvelles bien émondées, à qui ses ciseaux prudents enlevaient les épines. Récit de promenade à Naples. Allusion très claire aux belles jambes d'Aurore Schwarzwall, la danseuse du San Carlo. Aussi bien que les bourgeons trop hâtifs. Donne-moi des nouvelles de mademoiselle Angélique. Dans le bureau de Ferdinand, j'ai trouvé une madone d'Andrea del Sarto qui me fait penser à mademoiselle Cedara. Il modelait une image insipide de Tancrède, aussi peu véridique que possible, mais on ne pourrait prétendre qu'il jouait le rôle de trouble-fête ni celui d'entremetteur. D'ailleurs, ses précautions verbales répondaient bien à ses propres sentiments devant la passion raisonnée de Tancrède. Elle l'irritait pourtant dans la mesure où elle représentait pour lui une contrainte. De plus, elle n'était qu'un exemple des mille astuces de langage et d'attitude qu'il était contraint d'imaginer depuis quelque temps. Il pensait avec envie à la situation de l'année précédente. Alors, il pouvait dire tout ce qui lui passait par la tête, assurer que n'importe quelle sottise serait considérée comme parole d'évangile et n'importe quelle étourderie comme négligence princière. Dans ses moments de mauvaise humeur, quand il était sur la voie de la nostalgie, il allait fort loin dans le regret du passé et se laissait glisser sur une pente dangereuse. Un jour, tandis qu'il sucrait la tasse de thé que lui avait tendue Angélique, il se surprit à regretter les possibilités des Fabrice Salina et des Tancrède Falconeri qui vivaient 3 siècles plus tôt. Ils auraient satisfait leur envie de coucher avec les Angéliques de leur temps sans savoir à passer devant le curé. Ils se seraient fort peu souciés de la dot de leur vassal, qui d'ailleurs n'en avait pas. Et finalement n'auraient pas forcé leurs oncles respectables à faire des tours d'adresse pour révéler et pour cacher selon les besoins. L'assaut de la luxure atavique, ce n'était pas seulement luxure, mais aussi une forme sensuelle de la paresse, fut tellement brutale qu'il fit rougir le très civilisé gentilhomme quinquagénaire ou peu sans fond. Et son âme, qui à travers de nombreux filtrages avait fini par se teinter de scrupules à la Rousseau, en fut profondément honteuse. Son dégoût des conjonctures sociales où il se trouvait empêtré augmenta dès lors de façon aiguë. Et nous avons terminé pour ce soir la lecture du roman de Lampedusa, donc Le Guépard, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.